Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Le lapic, ce nom vous fait peut-être penser à une soupe bretonne ou un petit animal fantastique de nos contes et légendes ? Eh bien, pas du tout. Le lapic est une rivière du Finistère. Pas bien grande, elle prend ses deux sources du côté de Locronan et de Caste et traverse surtout la commune de Plonévé-Porzay pour se jeter dans la baie de Douarnenez à Tréfintec, dans le prolongement de la plage de Sainte-Anne-la-Palue. Techniquement, le Lapic est donc un fleuve, bien modeste, peu visible en fait. C'est pour lui redonner toute sa vigueur que l'établissement public d'aménagement de la baie de Douarnenez, l'EPAB, a choisi le Lapic pour participer au projet de la région et créer un atlas socio-culturel de la rivière en 2023 et en 2024. En clair, il s'agit de collecter les souvenirs des gens qui ont vécu ou qui vivent près de la rivière, qui la connaissent, les images, les sons, les objets, puis de monter des événements pour faire découvrir le Lapic. Dans ce cadre, l'EPAB a organisé une première traversée du Lapic le 17 juin 2023 pour entraîner les curieuses et curieux au fil de la rivière. Notre reporter Antoine Legini était présent, avec ses bottes aux pieds bien sûr. Il a suivi lui aussi la traversée, notamment Gaëlle Vigourou, la vice-présidente de l'EPAB, et Claire Vifustek, géographe et animatrice du projet.
La cohérence entre nous tous, redire qu'on habite tous le même territoire et qu'on est tous des maillons finalement d'un même tour. Hein, et ça se concrétise encore plus quand on parle de l'eau, quand on parle de nos cours d'eau. Donc c'est ce qu'on va faire dans cet atlas. L'atlas socioculturel, c'est vraiment la mise en valeur avec des habitants, avec des structures associatives d'un territoire, la mise en valeur du lien cours d'eau-habitant, de ce qui s'y fait et puis de le valoriser peut-être demain. De remettre finalement le patrimoine immatériel, culturel, le patrimoine matériel aussi, parce qu'il y a plein de choses sur le Lapic qu'on a découvert lors des premières rencontres, une causerie il y a quelque temps déjà, et de recueillir la mémoire de ce Lapic. Et quand on parle de mémoire du Lapic, on se rend compte qu'il y a une grande mémoire, il y a eu plein de choses sur le Lapic, c'est ce qu'on a vu à la dernière rencontre. Il y avait des moulins, parce qu'on faisait du lin, il y avait de la pêche, il y avait plein de choses. Et puis aujourd'hui, on ne sait plus trop quel est le rôle de la rivière. Donc c'est tout ça qu'on va redécouvrir tous ensemble. Et on co-créera finalement des animations autour du Lapic. Mais c'est le groupe qu'on est là et qui grandit de jour en jour qui va co-créer ce qu'on fera demain comme animation. Et je passe la parole à Claire Vie qui va vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire ce matin vraiment.
Donc certains d'entre vous, on s'est déjà rencontrés, il y a eu des événements en salle et là l'idée effectivement c'est d'aller dehors et d'aller rencontrer le Lapic. Et l'idée c'était de faire se rencontrer un peu des enjeux liés à l'environnement, à la nature et les enjeux liés à la culture, donc une dimension un peu plus sensible du lien que l'on peut avoir avec l'eau. Donc on va descendre ce matin au bois du Bourg, on aura quelques questions pour vous, réfléchir au lien qu'on a un peu avec le Lapic, et puis Olivier présentera le travail qu'a fait l'EPAB sur le Lapic. Ce sont des questions de continuité écologique. Pour certains qui connaissent, il y avait un petit étang qui a été retravaillé pour que le cours d'eau puisse reprendre une morphologie plus naturelle. Et ensuite, on aura un atelier où on va réaliser des cartes postales sensibles du Lapic. Donc, on vous expliquera plus en détail. Mais l'idée, c'est un peu de que chacun puisse exprimer quel est son Lapic. Donc, on aura plein de réponses différentes et plein de façons de voir les choses différentes qu'on pourra après mettre en commun et échanger.
Dans le public venu traverser le Lapic, Patrick Legrand. Il anime des ateliers d'écriture à la bibliothèque de Plonévé-Porzay. Il a beaucoup joué au bord de la rivière quand il était petit.
Au bord du Lapic, j'ai connu toutes les ruines des anciens moulins qu'on pouvait trouver au bord du Lapic. On avait construit une cabane sur un coin qu'on appelait le Pic de Caracos et qui s'appelle Mel Kistimik sur les hauteurs. Donc ça donnait sur une sorte de vallée, ça allait tout droit vers Rouyenne, donc l'ancien bourrier, l'ancienne décharge. Soit vers Tréfintec et le moulin en dessous du manoir, soit vers. Donc j'ai écrit un texte que je laisserai à la bibliothèque.
Il y a aussi des défenseurs de la nature, de l'eau, comme Nicole, qui est membre de l'association Eau et Rivières de Bretagne.
Non, mais je suis un petit peu initiée, nitrate, algue verte. Et après, vert, bon, ça va ensemble. Autant la nature que ce qu'on voit sur la plage après.
Voilà, on est en train de descendre par un tout petit chemin avec une pente assez forte vers le Lapic, avec une quarantaine de personnes qui déambulent tranquillement pour redécouvrir et parler ensemble de ce petit fleuve côtier qui se jette du Porzay, qui se jette à Trefentec, à Sainte-Anne-la-Palue.
Alors, on va vous poser quelques questions. Vous distribuez des cartes postales vierges. Et pour que vous puissiez noter à quoi vous fait penser le Lapic sur cette petite carte postale, mais vous allez voir, on va vous poser des questions précises, donc ça va être très simple. Je ne sais pas si vous voulez rester debout, sinon on a prévu de quoi s'asseoir. On a des nattes, tout ça. Je ne sais pas si c'est encore un peu sec ou pas. Oui, alors la question c'est quels mots, quels adjectifs vous viennent à l'esprit quand vous pensez au Lapic, quand vous le regardez? Quels adjectifs, comment vous le décririez? Mais très rapidement, en un mot, deux mots, trois mots, voilà. Sans faire de la grande littérature, juste spontanément, à quoi vous pensez quand vous pensez au Lapic?
Réfléchis.
Cet endroit tu penses?
Non, le Lapic en général, mais pour ceux qui ne connaissent pas, justement, peut-être ici ça peut vous inspirer.
Tu penses à un arbre? Alors on peut écrire un arbre aussi.
Après là, on va avoir un temps d'animation avec Olivier qui là va vous parler plutôt du coup de la dimension environnementale, naturelle, du cours d'eau. Et après on reviendra ici faire la création sur l'autre côté de la carte postale. C'est est-ce qu'il y a des grandes transformations que vous avez observées sur le Lapic? Donc là c'est plutôt si vous connaissez le Lapic depuis un moment ou pas depuis trop longtemps, mais des choses que vous avez vues changer. Est-ce qu'il y a eu des changements que vous avez observés? Quels sont les grands changements, les grandes transformations que vous avez
fait? Olivier Robin, je suis technicien à l'EPAB et je m'occupe de la restauration des rivières et des zones humides, particulièrement. Et donc le Lapic, c'est un petit bassin versant, il fait 3000 hectares à peu près, 3500 hectares. Il prend sa source pas très loin et a une longueur à peu près de 8 km sur le cours principal, plus avec les affluents, ça fait quand même un beau linéaire de réseau hydrographique. Et sur ce site-là, on avait une difficulté, le cours d'eau était coincé entre un ancien étang et le terrain de l'autre côté, donc en fait il était complètement contraint dans son tracé, il avait été redressé, mais tout le tracé du Lapic a été modifié au moment du remembrement, donc il a perdu, alors Paul pourrait me corriger, hein, c'est 1 km sur toute sa longueur initiale. Donc il y avait plein de petits méandres qui ont été simplifiés pour délimiter un peu plus facilement les parcelles de part et d'autre. Et donc quand on simplifie les écoulements, comme ça en fait on accélère les écoulements, on diminue la capacité du milieu à fonctionner, à héberger de la faune et de la flore qui permet un fonctionnement naturel. Et un des impacts, c'est la capacité du cours d'eau à filtrer l'eau et à conserver une eau de bonne qualité. Donc dans un lit de rivière, en fait, si on regarde le lit de la rivière, on a du caillou, on a du sable. Tous ces éléments-là, en fait, ils hébergent plein de choses. Et sur ça, la couleur que vous voyez sur le caillou, là, c'est pas juste la couleur du caillou. Si on le frottait un peu, en fait, on se rendrait compte que c'est vert, c'est rouge. Ça, c'est plein de micro-algues qui sont développées dessus. Et tous les cailloux, tous les graviers, en fait, ils sont recouverts de ces micro-algues qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'eau. Et de la même manière, on a plein d'invertébrés. On voit des petits. On peut regarder. Les enfants, si vous les regardez sous les cailloux, il y a plein de petites bêtes. Et en fonction des conditions dans lesquelles on vient, la saison dans laquelle on vient, on va trouver des bêtes différentes. Et tous ces organismes, que ce soit des petites bêtes ou des algues, ils contribuent à améliorer la qualité de l'eau et à la vie de la rivière. Donc l'idée ici, c'était de dire, on a eu un cours d'eau qui avait des méandres, qui a été remplacé à un moment donné par la création d'un étang. Donc cet étang, il date de après la sécheresse de 76. Et l'idée c'était de pouvoir faire une retenue d'eau. Et après ça s'est transformé en zone de loisirs, il y a eu des pratiques de pêche et de concours de pêche sur le site. Et du coup il y avait un petit canal qui amenait de l'eau, il y avait un ouvrage qui barrait la rivière à un endroit, un petit canal qui amenait de l'eau et puis qui se déversait ici, qui a alimenté cet étang. Moi quand je suis arrivé ici, c'était dans les années 2013-2014, l'étang il était plus alimenté, l'ouvrage était détruit. Et par contre, on avait avec tous les arbres qui est autour, des pleins de feuilles, donc une grande quantité de matière qui s'était accumulée dans l'étang. Et donc on avait une épaisseur de vase qui était de l'ordre de 80 cm. Donc voilà, on avait une zone qui était complètement défavorable pour la une partie de la faune, parce qu'on avait toute cette matière, elle se décompose, c'est un peu comme, comme du compost finalement, et donc ça consomme de l'oxygène, et on a une eau qui n'est pas très favorable pour l'accueil de la faune et de la flore, à part la faune qui décompose la matière. En fait. Donc la première étape, ça a été de dire comment on fait les choses, dans quel ordre on les fait, et quelles sont les contraintes. Donc là, vous avez vu, l'accès au site est un peu limité. Donc par Plonévé, côté Plonévé, enfin par le bourg, c'était compliqué de descendre, le chemin est très pentu, c'est pas très favorable pour amener un engin. Il faut quand même venir avec un engin assez lourd. Donc on a eu l'accord du propriétaire d'à côté pour accéder par Plonévé. Donc on est parti d'un lit de cours d'eau qui faisait il faisait 70 mètres et on l'a passé à plus de 120 mètres en fait. Donc on a augmenté de 40% la longueur du cours d'eau. Et c'est surtout, on a diminué la hauteur des berges, donc on avait des berges qui faisaient 2 mètres de haut, on est passé à des berges qui font 40 cm de hauteur. Et du coup, en cru, l'hiver, l'eau déborde partout. Et on a pu le voir cet hiver, il y avait, au printemps notamment, on avait des traces de débordement. On le voit quand les premières crues d'automne, en fait, elles charrient beaucoup de feuilles, beaucoup de branches. Et quand la rivière déborde, elle le dépose dans la prairie. Donc là, on pouvait voir à la fin de l'hiver qu'il y avait eu beaucoup de feuilles de déposées dans la prairie. Donc, ça permet de stocker de l'eau dans la zone, ça permet de capter un certain nombre d'éléments qui sont véhiculés par la rivière, donc que ce soit du sable ou des feuilles. Donc tout ça se dépose, plutôt que d'aller plus bas et d'aller éventuellement jusqu'à Tréfintec, ça se dépose sur place et ça contribue au fonctionnement du milieu. Un milieu naturel, aquatique qui fonctionne bien, on a des relations entre la rivière et sa zone humide. Si on isole les milieux, il y a des connexions qui ne se font pas, il y a des échanges qui ne se font pas. Parce que là, on pense que l'eau ne fait que couler dans la rivière. En fait, la zone humide qui est à côté, elle recueille aussi des eaux qui viennent des coteaux de chaque côté. Donc en fait, il y en a de l'eau qui circule dans ce sens-là, on a de l'eau qui circule dans ce sens-là. Et chaque étape a un rôle à jouer dans les équilibres de qualité d'eau. En fait. Donc si vous voulez, on va avancer. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des plus petits poissons qu'on voit pas beaucoup, c'est des chabots. On appelle ça des têtes de meunier. Alors souvent ils sont sous les cailloux, ça fait 10 cm. C'est une grosse tête un peu comme une note, c'est beaucoup plus petit qu'une note, mais c'est une grosse tête avec des gros yeux comme ça et ça mange les petites bêtes qui sont sous les cailloux. Et on a beaucoup d'espèces qui vivent avec la truite, dont des petits vérons, des petites cloches. Et puis une espèce qui n'est pas vraiment un poisson, qui est plutôt qu'on considère comme un parasite entre guillemets, parce qu'elle se nourrit d'autres animaux. C'est une petite lamproie qui fait une vingtaine de centimètres. Et donc on en a quelques-unes aussi sur cette rivière-là, qui mangent plutôt les petites bêtes qui sont dans le sable. Et elle aime bien tout ce qui est vase et sable. Donc elle s'enfouit là-dedans.
Et ça, pareil, c'est pas des espèces que vous avez introduites, elles étaient là
vous... Ah non, elles sont là naturellement, et le lapic a plutôt une bonne qualité sur l'aspect poisson. Il y a un point de suivi qui est à Carrière, juste avant Tréfintec, et il y a des inventaires qui sont faits tous les 3-4 ans, et généralement, il y a une bonne qualité de peuplement piscicole. Quoi. Et c'était aussi un des arguments aussi pour enlever le plan d'eau, c'est-à-dire que la qualité des plans d'eau, généralement, elle est un peu dégradée, parce qu'une surface d'eau qui bouge pas, elle se réchauffe. Et les peuplements de poissons qui sont liés à la truite, la truite, elle a besoin d'une eau maximum à 20 degrés. Au-delà de 20 degrés, la truite, elle commence à être en difficulté et à 22, elle est morte. Okay. Donc, il faut imaginer que si on avait une série, là, on n'avait qu'un plan d'eau, donc l'impact était minime, mais malgré tout, on pouvait avoir une dégradation de la qualité de l'eau qui amène un réchauffement de la rivière.
Il n'y a pas trop de nitrate dans l'eau?
Il y en a un peu, parce qu'en fait, si vous voyez cette algue-là, là, pour l'instant, j'en ai pas trop parlé, mais. Et ça, en fait, ça, c'est une algue filamenteuse. Alors, je vous dirai pas laquelle parce que j'en sais trop rien. Mais elle se développe beaucoup quand il y a de l'azote dans la rivière. Et donc, là, on en a un peu sur ce secteur-là. On est encore sur un des bassins versants où il y a des progrès à faire sur les fuites d'azote sur les bassins versants. Et donc, en fait, quand on a beaucoup de nutriments, c'est de la nourriture pour les algues, hein, en fait, elles se nourrissent, c'est des végétaux, donc ils ont besoin de nutriments. Dès qu'on en a à des taux importants, on a une explosion, une prolifération importante. Parce qu'il n'y a pas d'autres organismes qui peuvent consommer ça en plus. Et en plus, là, on a une zone qui est un peu dégagée. Donc voilà, si on avait des arbres autour, ça limiterait un peu son développement. Là, dès que c'est ouvert, ça se développe beaucoup.
La pique en breton, ça veut dire abreuvoir. Là, c'était l'abreuvoir des animaux, car ce qui borde le petit fleuve aujourd'hui encore, c'est de l'élevage. Jean-Alain Divanac est l'un des éleveurs riverains du Lapic, et il est présent aussi à la traversée.
Moi, je suis agriculteur à Plenévé, donc je suis né là, au bord du Lapic, donc, qui a été forcément dans l'enfance un lieu de jeu, de sortie, de découverte, de création aussi, avec les frangins, avec les copains. Donc c'était comme c'est un lieu qui bouge toujours aussi, des barrages, des cabanes et autres. Et aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, je me trouve comme gestionnaire, on va dire, des abords du Lapic, puisque j'ai des terres de part et d'autre de la rivière quand elle passe chez moi, un peu très en amont de la rivière. Et donc d'autres problématiques aussi. Je suis éleveur de bovins encore, des vaches laitières. Donc les prairies qui bordent le ruisseau sont forcément valorisées par les bovins. On trouve grâce d'avoir cette herbe là en été. Elle est un peu moins accessible le restant de l'année, souvent, puisque autant en automne avec les premières pluies qu'avec les dernières pluies de mars-avril aussi. C'est pas forcément accessible aux bovins, c'est pas forcément accessible à la mécanisation non plus. Donc on a ces problématiques de gestion de ce bord de rivière, des gestions de clôture aussi par exemple au bord de la rivière, donc où on doit garder une certaine propreté végétale de façon à ce que les animaux soient contenus, qu'ils n'aient pas accès à la rivière non plus, puisque souvent ils sont aussi facteurs de dégradation des berges. Donc on doit préserver ça, c'est un souci pour nous, c'est du travail pour l'agriculteur aussi d'entretenir ça. Ça se fait sans pesticides forcément aussi par rapport à la proximité, donc c'est essentiellement du mécanique, donc de l'humain à gérer. Donc c'est du temps, c'est des moyens forcément, puisque le temps c'est de l'argent, les disponibilités dans les exploitations agricoles sont de plus en plus limitées aussi, et donc on ne fait plus ce qu'ont fait nos grands-parents à un moment donné, à la force des bras, mais avec la pléthore de moyens humains qu'il y avait dans les exploitations à l'époque, quoi. Donc aujourd'hui, une des problématiques de ces fonds de vallée, c'est aussi l'abandon de l'élevage bovin. Donc ici, il y avait surtout de la production laitière, historiquement. Bon, le nombre d'exploitations laitières diminue. Donc c'est vrai que la valorisation de ces prairies de bord, de cours d'eau, n'est plus pour d'autres exploitations de culture ou d'élevage porcin ou de volaille. Donc c'est un souci de fermeture du milieu, d'entretien de ce milieu, qui peut se faire aujourd'hui soit via des jachères. On est obligé de raisonner aussi en tant qu'acteur et gestionnaire économique. On raisonne aussi administrativement les choses à notre niveau. C'est une obligation aussi de considérer ces choses-là. Donc via des jachères ou bien demain avec les éco-régimes de la politique agricole commune aussi, ce serait une manière pour nous de faire une gestion technique et économique de ces milieux-là qui du coup ont perdu leur fonction de production en tant que telle. Donc c'est de l'entretien, mais ça ne peut pas se faire complètement gratuitement aussi. Une des possibilités pour l'agriculteur, c'est de dire on ferme la barrière, on n'y va plus et on laisse la nature reprendre ses droits, chose que tout un chacun peut déplorer puisque la nature laissée à elle-même n'est pas forcément la meilleure non plus. On parle de fermeture de milieu, l'accès du ruisseau pour alors aussi pour les pêcheurs est barré. Autant qu'il est difficile peut-être quand il y a des animaux et des clôtures, autant là si c'est les ronces et les saules qui poussent, il n'est plus possible non plus. Une tempête passe par là, les uns et les autres recouvrent. Et c'est vrai que même pour nous, c'est une fermeture de milieu qui n'est pas souhaitable tout simplement, puisque c'est aussi des repères de faune sauvage éventuellement, donc c'est pas forcément souhaitable ni pour les agriculteurs ni pour les habitants du territoire des fois, quand on parle de sangliers ou autres notamment. Donc c'est une préoccupation des agriculteurs que la gestion de ces fonds de vallée là aujourd'hui.
Et vous êtes combien d'agriculteurs sur qui repose la gestion des bords du Lapic, justement, vous sur le Lapic ?
Il y a de moins en moins, puisque les exploitations en nombre diminuent, les surfaces augmentent. Après, une bonne partie de ces fonds de vallée, là, souvent sont restés en dehors des exploitations. Dans le cadre de l'arrêt d'une exploitation, ces terres-là étant les moins productives, sauf un peu pour les bovins, souvent sont restés dans un patrimoine personnel, des familles, ils sont tombés dans des successions. Et donc aujourd'hui, on a un morcellement du foncier, de la propriété foncière au bord du ruisseau, qui ne facilitera pas les choses à l'avenir, forcément. Et pour ceux qui ont repris, pour les agriculteurs qui ont repris, comme je disais, c'est comme des terres les moins productives, donc les moins intéressantes.
Oui, ça reste compliqué, en effet. Et puis, l'enjeu de maintenir la production bovin-lait, en fait, parce que ce n'est pas ni le porc ni la volaille qui va permettre...
Comme ils ne mangent pas d'herbe, ils ne valorisent pas le foin non plus, ça c'est clair. Après, c'est vrai qu'on est sur des évolutions de fond. L'économie fait que la production laitière diminue. Elle diminue aussi par rapport à l'astreinte main-d'œuvre qu'elle demande. La motivation des personnes, d'agriculteurs à faire du lait, et qui est une motivation économique aussi forcément, puisqu'on le fait quand même pour dégager un revenu et nourrir un projet économique. Donc c'est vrai que le nombre d'exploitations laitières diminue beaucoup, et sur des communes comme Plonévé-Porzay qui portent l'essentiel du bassin versant du Lapic, bientôt on comptera les exploitations laitières sur les deux mains.
L'idée de cet atlas du Lapic, c'est aussi de collecter des créations comme cette chanson lue par Mariana Fustek.
Au bas du Lapic, sur le bord de la rivière, j'aimais toujours, autrefois, aller marcher là-bas. Toujours sous le soleil qui brillait, des fleurs tout plein autour de moi qui souriaient. Au bord du Lapic, au milieu du bruit des eaux, où sautent les saumons au-dessus de l'onde, comme il me plaît d'écouter dans les prés les chants joyeux des doux oisillons. Au bas du Lapic, en moi, toujours vivront ta jolie rivière et tes prés verts. Mon pauvre cœur pour toi toujours bondira pour te voir encore vivement que je traverse la grand-mère.
On peut s'inspirer de ce qui a été fait autour d'une autre rivière, le Bellon, pour lequel Alexis Fichet a créé cette fable lue par Clairvy Fustek.
Les devis du moulin. C'est un trou de verdure où chante une rivière, mais où respire encore une ambiance marine. On détourne un peu d'eau, on apporte des pierres, on bâtit un moulin pour faire de la farine. Un petit oiseau bleu, un cousin de la flèche, vole depuis toujours dans ce coin de nature. Voyant que l'on détruit, qu'on terrasse et qu'on bêche, il se déplace un peu, quitte un nid qu'on fracture. Le martin est discret, il accepte et tolère, bien plus que ne le font les bruyants mammifères. Et si sur son cours d'eau on installe un moulin, il continue sa vie et cherche un peu plus loin. Le blé est dans les champs et puis chez les paysans. Le meunier fait le lien, son moulin est un pont. On travaille, on bavarde, le lieu est accueillant. À chaque appel à l'aide, un bienveillant répond. Mais avec les années, le blé n'est plus moulu, ni sur la pierre ancienne, ni par l'eau froide et vive. Le progrès a laissé le moulin sur la rive, immobile et sans but, ainsi qu'on l'a voulu. La rivière déborde, la roue ne tourne plus, le bâtiment est vide et sans activité. De l'eau s'infiltre un peu à chaque fois qu'il a plu. C'est un vestige en ruine qu'on préfère éviter. Mais d'autres années passent, un couple parisien tombe amoureux du lieu et de son charme ancien. Ils aiment la région et puis l'air de la mer, ils feront du moulin leur maison secondaire. Ils refont la toiture, rénovent les vieux murs, installent la Wi-Fi et des spots éclairants. Et comme ils ne viendront que quelques jours par an, sur tout le périmètre, ils plantent des clôtures. Le domaine est privé, on ne s'y salue plus, fermé comme une coque interdite aux passants. Son nom est sur la carte, mais il n'existe plus. Ainsi peut disparaître un morceau du présent. Le martin est resté, il parcourt le terrain, pêche quelques verrons et salue les mésanges. Propriété privée ? Cela ne lui dit rien. Il ne fait pas de bruit et passe comme un ange. Quand on fait sa maison par-dessus la rivière, ce devrait être aux bêtes aussi de décider. Et la meilleure façon aujourd'hui, comme hier, d'habiter le ruisseau serait d'y résider comme une flèche bleue.
Voyons ce que le Lapic a inspiré aux participantes et participants de cette traversée.
Moi, j'avais mis un mot breton pour la troisième question, il me semble, c'était la couleur. Ouais. Et j'avais mis glace, puisque c'est à la fois le bleu et le vert. Et je pense que la rivière, le fond de vallée, c'est forcément toujours en nuance.
Est-ce que vous voulez dire les mots que vous aviez choisis ?
je vous laisse les.
Alors, j'avais mis frais, reposant, calme. Couleur, j'ai mis transparent, vert. Après, tranquillité, esprit reposé. Après, j'ai mis en souvenir anguilles pêchées dans ma jeunesse. Sans avoir le droit de les pêcher, évidemment. Hein. Parce qu'on était tout petits, on posait des cannes à pêche dans le lapic en bas de chez nous. Et on attrapait des anguilles et une fois une truite.
Bah moi, je veux bien prendre la suite de Cathy, du coup, dans le même lapic, mais parce que je suis sa fille, mais quelques années après. Moi aussi, je me rappelle être allée dans l'étang, donc dans les années 90, 98 même plutôt. Et je me rappelle voir ces anguilles dans l'étang de mon voisin, au moulin. Beaucoup, je m'en souviens, passer entre nos jambes. Et moi, c'est plutôt sur un autre ton, mon dessin, parce que... Un jour, mon voisin a eu besoin de drainer son champ et en fait, il a dévié le lapic qui, du coup, ne coulait plus dans notre rivière et dans notre zone de jeu, mais à côté. Et du coup, bah, beaucoup moins d'eau. Moi, je me souviens de ma jeunesse avec beaucoup d'eau dans ce lapic. Et là, bah, moi, maintenant, du coup, c'est chez moi, cette zone. Et bah oui, beaucoup moins d'eau. Et quand je vois mes enfants jouer dans le lapic, je vois la différence avec moi dans les années 2000.
Après, le lapic pour moi me donne, fait parler de vie quoi. Enfin, c'est le mot vie qui me parce que en fait, pour revenir aussi à l'histoire, avant la vie était faite aussi au niveau des ruisseaux. Enfin, les rivières étaient un élément majeur de la vie quoi. Et après, c'est le milieu qui s'est refermé quoi. C'est-à-dire que d'une rivière où on avait l'accès, en fait, les gens n'y sont plus venus. Il n'y a pas eu non plus d'association à venir s'en occuper. Donc du coup, le milieu se referme et puis il n'y a plus d'accès. Quoi.
Moi, j'ai pas de souvenir d'enfance vraiment du lapic. Enfin, je sais pas. Mais du coup, j'avais plutôt mis invisible et calme et inaccessible parce que en fait, enfin, j'ai habité là enfant, ado et je connaissais pas forcément vraiment le lapic. Et j'ai mis aussi prometteur parce que je pense que il peut y avoir des choses qui bougent et des chemins ou des liens entre le village, la mer et tout ça par les rivières. Et le dessin, j'ai juste dessiné la rivière là.
Bah, c'est la nature. Et voilà.
Tu es bien ici ?
Oui.
C'était la première traversée du Lapic. Il y en aura d'autres puisque la réalisation de cet atlas continue jusqu'en 2024.